de retour à l'émission de littérature, dernière partie avec François Cusset en direct par téléphone. Merci beaucoup d'être avec nous.
Bonjour, bonsoir.
Bonsoir. Alors on va parler tout de suite de cette fabuleuse collection qui s'appelle donc Pensées croisées aux éditions Les Prairies Ordinaires, que vous co-dirigez avec Rémi Toulouse, l'éditeur des Prairies Ordinaires. Pouvez-vous nous présenter rapidement cette collection dont quatre titres viennent de sortir, donc il y a La totalité comme complot de Frédéric Jameson, il y a Quand lire, c'est faire de Stanley Fish, et il y a Les habits neufs de la politique mondiale de Wendy Brown, et puis de cet ouvrage dont on va plus particulièrement parler, Le stade Dubaï du capitalisme de Miles Davis.
Eh bien écoutez, on a voulu avec cette collection s'inscrire, prendre place dans le mouvement actuel en France de rattrapage d'un certain retard intellectuel du champ français sur la théorie mondiale, c'est-à-dire qu'on a très peu traduit d'intellectuels étrangers, ce qui est une vieille tradition française, mais en particulier depuis 20 ans pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, et donc on commence enfin à découvrir des gens qui ont déjà été traduits dans beaucoup d'autres langues avant le français, et on veut ajouter un peu notre pierre à cet édifice-là, avec peut-être deux spécificités qui sont d'une part le principe du texte court, type long article universitaire un peu engagé d'intervention comme il se fait dans le monde anglo-saxon, qui permet effectivement d'avoir un livre un peu boîte à outils, un livre ou pistolet dans la poche revolver, mais qui soit mince et percutant, et qui soit d'un bon niveau théorique, donc avec l'idée là aussi importée de l'étranger, que la rigueur théorique et l'engagement critique sont compatibles, parce qu'on est un peu dans un pays où la rigueur théorique est pour les universitaires dans leur illusion de neutralité, quant à l'engagement critique ou l'engagement quel qu'il soit d'ailleurs pour le pouvoir aussi, c'est du côté des essayistes plus superficiels. On voudrait là aussi réconcilier les deux. Donc voilà un peu les trois principes de cette petite collection de traduction d'essais étrangers.
Donc presque quasiment l'événement dans cette collection, c'était la traduction de Frédéric Jameson, La totalité comme complot, puisque Frédéric Jameson n'était jamais traduit en France, et soudain, il y a trois livres qui sont sortis au même moment de Frédéric Jameson. C'était un choix important pour vous de La totalité comme complot?
Oui, alors effectivement, moi, Jameson, c'est quelqu'un que je connais depuis assez longtemps, 10 ou 20 ans, qui est sans doute le plus grand théoricien critique, disons, paramarxiste dans le champ anglo-saxon, notamment qui a théorisé le postmoderne, ce que c'est que ce qu'on appelle le postmodernisme, comme allié culturel du capitalisme avancé, comme il le dit, et c'est quelqu'un qui manquait effectivement en langue française, donc le texte que nous avons choisi est plutôt un texte plus empirique, c'est-à-dire c'est vraiment un texte thématique, le thème qu'aborde Jameson en lisant des films, des livres, des séries B, c'est celui du complot mondial comme dernière représentation possible de la mondialité, c'est-à-dire qu'on serait la mondialité ou la mondialisation serait irreprésentable sauf sous la forme du complot, ce qu'il va donc traquer dans des films d'ailleurs connus, des Cronenberg ou des choses plus série B du tournant des années 80 à peu près. Donc là on voit vraiment la méthode Jameson à la fois grande ampleur théorique et grande acuité de regard sur des œuvres précises de la culture populaire, on la voit fonctionner à merveille dans ce petit texte.
Et puis il y avait ce livre de Stanley Fish, quand lire, c'est faire, vous en parlez bien dans la French Theory de Stanley Fish, qui est, vous dites, une star des campus américains, et qui est, qui est complètement inconnue en France.
Oui, inconnue, alors pour dire à quel point c'est une star, c'est le modèle du personnage de David Lodge dans ses romans, dans ses satires universitaires, une espèce de prof surpayé, très connu, très content de lui, qui est effectivement Stanley Fish, mais qui est en plus un théoricien littéraire, enfin, et du texte, et du droit, puisqu'il a été prof de droit et prof de littérature, extrêmement pointu. Là, ce qu'il propose, c'est tout simplement la théorie de la communauté d'interprétation, c'est-à-dire l'idée que ce sont les lecteurs qui font les textes, qu'on disait déjà dans les années 60-70, mais qu'en plus, ils les font par l'institution, le lien communautaire qui les fait lire ensemble, donc que ce soit les étudiants d'une classe, les militants d'une cellule ou le groupe d'amis d'un club de lecture. Voilà, c'est une théorie dont on a besoin, je crois, dans le monde sarkozien actuel.
Alors venons-en au stade Dubaï du capitalisme de Miles Davis. Miles Davis un peu plus connu en France.
Oui, effectivement.
On entend votre fille derrière, c'est charmant, c'est génial. La tétine est tombée. Ah
non, mais la tétine vient d'être mise, donc on peut continuer.
Ouais, génial. Alors le stade Dubaï du capitalisme de Miles Davis, c'est vraiment un texte que j'ai complètement adoré. Bon, à l'émission, on suit Miles Davis depuis un certain temps. Donc l'originalité, c'est d'avoir un texte de Miles Davis et un autre texte de vous, du coup, qui est de la même longueur. Alors j'aimerais j'aimerais vous poser les questions de pourquoi déjà avoir choisi ce texte sur Dubaï. Quelle est cette étrangeté de Dubaï et pourquoi vous y êtes vous-même allé, puisque vous écrivez « Question pour un retour de Dubaï ».
Alors j'y suis allé, ça pour des raisons tout à fait personnelles que je ne dévoilerai sous aucun prétexte, mais j'aurais pas dû y aller, effectivement, c'est la dernière des destinations touristiques, c'est un endroit infernal, très très spectaculaire, mais infernal en même temps. C'est typiquement le bon objet d'une théorie exigeante aujourd'hui, d'une théorie politique exigeante, parce que c'est un peu l'avenir, ou un certain avenir, peut-être un peu subjectif, d'un certain capitalisme du tiers-monde, puisqu'on est passé du féodalisme islamique à l'hypermodernité, toujours aussi féodale d'ailleurs, sans transition. Donc c'est un lieu, un objet, un dispositif tellement étranger à nos habitudes et à nos théories un peu ronronnantes sur le capitalisme, qu'il me semble c'est ce à quoi les théoriciens d'aujourd'hui devraient s'attaquer, ce que fait Mike Davis sur un mode assez offensif comme il sait faire, et voilà, et ce que j'ai voulu faire aussi en poursuivant simplement quelques lignes de développement de thèmes que lui aborde.
Alors, ce que je trouve vraiment passionnant dans votre texte, on va plutôt parler de votre texte, c'est cette partie islam et capitalisme ferait-il bon ménage ? Ça, c'est original. Hein.
Alors, effectivement, ce qui se passe avec l'exemple de Dubaï, c'est qu'on est face déjà à l'invalidation de toutes les théories qu'on a beaucoup nous chez nous sur l'idée que le syllogisme qui veut que la démocratie est requise par le capitalisme pour bien fonctionner et la démocratie serait incompatible avec l'islam. Donc islam et capitalisme fonctionneraient mal, d'où le fait qu'effectivement on aurait des Ben Laden qui spéculent pour financer des attentats, mais sinon des pays qui végéteraient dans un sous-développement. Ce que l'islam version Dubaï invalide donc complètement, puisque là, voilà, on peut faire les courses à toute heure, les horaires sont adaptés en fonction du ramadan, les femmes sont voilées, mais néanmoins en sac vuitton, et pas toutes d'ailleurs, voilées. Et donc on a à la fois la version 21e siècle d'une bourgeoisie, si vous voulez, de pays musulmans, une grande bourgeoisie même, sans effectivement ce que les islamophobes voient comme l'arriération de l'islam, puisque l'islam fonctionne très bien en régime d'hypermodernité techno-économique. Voilà ce qui, moi, m'intéresse, parce qu'il s'agit quand même du destin politique et économique d'un milliard et demi d'humains sur lesquels, je trouve, on dit des choses un peu rapides.
Et alors, Dubaï, c'est une ville futuriste, et c'est une ville même, que vous dites, qui a cette particularité d'être au futur. Elle est au futur. Et quand on la voit, par exemple, sur les cartes postales à l'intérieur de Dubaï, vous dites que vous voyez les constructions futures et à venir de cette ville.
Elle n'est que projet, c'est-à-dire qu'effectivement c'est une ville qui ne se présente et ne parle d'elle-même qu'au futur. Elle est en permanence alignement de projets les plus fous les uns que les autres, donc avec les tours les plus hautes du monde, désormais elle les a, je crois. Le grand gratte-ciel de 857 vient d'être inauguré, avec des projets de stations de ski sous cloche au milieu du désert à 60 degrés. Et tout ça est proposé comme le seul contenu et touristique et culturel et même économique de Dubaï, qui tient ses promesses. Si je voulais faire une blague idiote, ça serait une version urbanistique antipodique du sarkozysme. Quoi. C'est une ville qui tient ses promesses et qui donc propose avec un imaginaire effectivement au futur, complètement prospectif, des choses qui ont l'air irréalisables et qu'elles réalisent au fur et à mesure, en particulier par exemple l'île Monde, donc des polders qui ont été découpés dans le golfe Persique et qui représentent la planisphère avec 5 îles pour les 5 continents. Et vous pouvez acheter une villa en Angleterre par exemple, ou bien si vous êtes très riche, racheter le Japon. Donc grand, je voulais une sorte de jeu de société à échelle qui ferait rêver et qui aurait fait rêver feu Jean Baudrillard, dont on peut imaginer qu'il aurait écrit des choses savoureuses sur Dubaï.
Et puis vous en venez dans votre texte à se poser cette question: est-ce que l'Occident serait la banlieue du monde ? Ou l'Occident serait-il en banlieue du monde ?
Là, ce qui se passe de fort, c'est qu'on peut toujours avoir cette impression-là, effectivement, en Asie ou dans les mégapoles d'Amérique latine, où effectivement tout est à une échelle dont on n'a plus l'habitude chez nous. Sauf que cette fois, le modèle Dubaï, ça consiste à récupérer les fondements et les images aussi du capitalisme à l'occidental et à les détourner vers un mode de vie, un mode d'organisation politique distinct de ce qu'on connaît dans le capitalisme occidental. Donc ça n'est pas simplement la copie de l'original, comme on le croit, mais véritablement un un modèle d'un type nouveau ou un agencement d'un type nouveau entre régime économique, régime financier, régime de l'image, régime religieux, régime politique dictatorial, ce en quoi donc ils ne sont pas simplement en train de développer la modernité à l'occidentale, mais d'inventer un modèle dont évidemment, il va de soi qu'on espère qu'il se répandra pas aussi rapidement et efficacement que le modèle américain, mais il en est distinct, c'est ça que je voulais dire. Ce qui nous ramène effectivement au XXe siècle. L'Occident a sans doute atteint l'apogée de son pouvoir civilisationnel sur le reste du globe au XXe siècle, et ne fera que décliner après, mais ça c'est une banalité. Mais disons qu'à Dubaï, on le sent, c'est palpable, quoi. C'est vraiment dans les rues, quoi.
Ma dernière question, et après je vous libère. Pouvez-vous nous parler de votre prochain livre ? Vous aviez publié French Theory, qui était un grand événement aux éditions de la Découverte. En 2006, c'était la décennie, le grand cauchemar des années 80. Donc là, on était vraiment situé dans la France. Le prochain, c'est quand ? C'est quoi ?
En fait, je vais faire deux petits livres. Justement, peut-être c'est l'effet de cette collection qui m'incite à faire du petit livre, du livre plus d'intervention. Quelque chose... sur 68 pour le quarantenaire là qui arrive, en particulier contre le mode dominant de célébration de ce quarantenaire de mai 68 là qui va nous arriver en librairie assez abondant, un petit truc ponctuel mais quelque chose que je souhaitais dire, et puis quelque chose peut-être de plus ambitieux mais qui sera bref aussi et peut-être un peu plus formel, presque littéraire, sur la place de l'amitié comme lien politique au cœur de la génération intellectuelle qui, moi, m'intéresse, donc toujours la même, Foucault, Deleuze, Derrida, comment est-ce qu'ils ont théorisé, pratiqué l'amitié en un sens assez nouveau et qui peut nous parler aujourd'hui. Voilà les deux projets de livre.
Et bien tout ça sera lu et chroniqué. Merci beaucoup François Quisset d'avoir été avec nous.